Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Éric Revel, journaliste, éditorialiste sur Sud Radio, Revel en campagne tous les matins à 9h. Bonjour Éric. Dominique
bonjour,
de Montballon,
Valérie, bonjour
journaliste politique.
Bonjour.
Bonjour. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour.
Bonjour.
Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire en Seine-Saint-Denis. Bonjour,
bonjour
Kevin.
Valérie.
On rit, on sourit, même si la situation est tragique parce que Kevin me disait en arrivant, voilà, on était épidémiologiste, on est devenu kremlinologue,
spécialiste de la Russie,
de la géopolitique. Non, c'est ce que j'essaye d'expliquer, c'est d'essayer de comprendre, de débattre sans opinion définitive sur les choses, puisqu'en plus elles évoluent assez rapidement. Et puis Gilles Gansman qui est resté avec nous pour le zapping de la présidentielle.
Oui.
On y va, zapping de la présidentielle.
Sud Radio, le zapping de la présidentielle.
Valérie, ne m'en voulez pas, mais avant de zapping, je voudrais rendre hommage aux
disparus de cette guerre.
À toi, Martin Blachier, qu'on ne voit plus. À toi, Gérard Kirzek, qui a disparu. Je ne t'oublie pas non plus, Bruno Bégarbarn, sans oublier Jean-François Defrécy, dont le conseil a été remplacé par le conseil de sécurité. Ah, Valérie, quelle sale guerre, quand même, ils sont tous disparus.
Ouais.
Mais vous n'êtes pas le seul. Sur ce terrain, les Ukrainiens, eux aussi, se battent et espèrent que bientôt, on pourra reparler du Covid. Regardez cet exemple, c'était sur BFM. Sacha, c'est un ancien danseur. Et vous savez ce qu'il fait maintenant ?
Non.
Eh bien, il fait des cocktails Molotov.
Peut-être que tu peux en prendre deux caisses et tu les amènes au checkpoint.
Sacha est un voisin de Yaro. Il accepte de nous montrer sa fabrique de cocktails Molotov.
Pourquoi tu fais ça ?
Nous, faire ça, il y a un bloc poste.
Sacha parle quelques mots de français. C'est un ancien danseur professionnel qui a participé à des dizaines de tournées dans toute l'Europe, dont la France. Mais aujourd'hui, c'est lui qui prépare ses bombes artisanales pour les checkpoints de la ville.
C'est un mélange d'essence et d'huile. Ça imbibe le tissu. Nous amenons ça au checkpoint et quand c'est nécessaire, lorsqu'il y a un véhicule blindé, un char, tu allumes la mèche, tu lances et le véhicule prend feu. C'est de cette façon qu'on essaie d'arrêter les tanks de l'ennemi.
Et oui, c'est quand même assez incroyable de voir comment ils s'organisent. Tout le monde se demandait forcément si ce conflit n'allait pas tourner vers une guerre atomique. Heureusement, Valérie, Joe Biden nous a répondu.
Mr. President, should Americans be worried about nuclear war?
No.
Oui. C'est rapide.
C'est un peu rapide. Je vous le remets.
Oui.
Mr. President, should Americans be worried about nuclear war?
No.
Donc, est-ce que les Américains devraient s'inquiéter d'une guerre nucléaire? Il répond non. C'est ça?
Ouais, c'est assez laconique. Hein.
Oui.
Alors que l'Ukraine était en train de rejoindre l'Europe aujourd'hui, Vladimir Poutine, ironie du sort, a peut-être facilité la tâche à l'Union européenne. Vous savez que tout à l'heure, à 12h45, il va s'adresser, le président de l'Ukraine, à l'Europe via Zoom. Et vous allez voir que pour le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, eh bien l'Ukraine, c'est déjà l'Europe.
Il est certain que la situation après la guerre, j'espère qu'on sera dans cette situation le plus rapidement possible, aboutira à ce que la relation entre l'Union européenne et l'Ukraine change. Mais il faudra mettre tout l'ensemble des éléments sur la table et dans la discussion. L'Europe, après la crise ukrainienne, ne sera plus la même. Et la relation entre l'Ukraine et l'Union européenne, évidemment, ne sera plus la même.
Ursula von der Leyen, qui est à Paris, a dit « ils sont des nôtres » en parlant des Ukrainiens. Ça veut dire
oui,
que...
ce sont des Européens, évidemment.
Mais
ils ont la même culture que nous, évidemment. Et ils ont les mêmes valeurs que nous, évidemment.
Oui. On pourra en redébattre. Et puis, c'est fini ?
Et ce son de Gérard Larcher, Valérie, chez nos confrères d'Europe 1, c'était juste ce matin, sur l'annulation du meeting d'Emmanuel Macron, où il devait, on supposait, présenter sa candidature. Eh bien, Gérard Larcher a peur que l'élection se fasse sans débat. Il faut dire que sa candidature, Valérie Pécresse, que la candidate, Valérie Pécresse, n'est pas au mieux de sa forme dans les sondages.
Nous sommes maintenant à 5 semaines et demie de l'échéance du premier tour. S'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de bilan, de projet, imaginons le président de la République réélu, alors ce sera dans une forme d'omission de débat démocratique, avec un risque de légitimité au cours du mandat.
Voilà, mais ça fait partie tiens, des questions et des débats que je voulais évoquer aussi avec vous. Est-ce qu'il faut nécessairement un débat pour choisir le président de la République ? Merci Gilles.
Un dernier son, Valérie, sur Arte France.
Allez-y.
Un son que vous m'avez demandé sur l'intervention, c'est toujours Jean-Yves Le Drian, hier sur BFM, et qui a parlé de l'interdiction de RT France.
Ce sont des outils de diffusion de guerre qui instrumentalisent, qui déversent des contre-vérités et qui sont en soutien de l'agresseur. Donc, il faut les interdire, bien évidemment. Mais il faut les interdire en européen. Et ça va être le cas dans les heures qui viennent.
Et à Paris, il va y avoir une décision de...
C'est une décision européenne qui s'appliquera dans toute l'Europe.
À partir de quand ?
Dans les heures qui viennent.
Dans les heures qui viennent, on l'a évoqué tout à l'heure avec le journaliste spécialiste des médias du Point qui nous disait que c'était compliqué, qu'il y avait la loi, qu'il y a un organisme qui est l'ARCEP aujourd'hui. Je crois, Éric Revel, que c'était ce que vous vouliez aborder dans votre coup de gueule.
Oui, je voulais parler d'RT France, parce que moi j'ai fait quelques papiers politiques pour RT France ces dernières semaines, où personne ne m'imposait un sujet et je traitais, comme on dit dans le milieu journalistique, l'angle que je souhaitais. J'ai même qualifié la guerre en Ukraine l'adjectif que j'ai employé, mais j'étais très très dur avec ce que faisait Vladimir Poutine. Ouais. Ce que je comprends pas très bien, si vous voulez, c'est... c'est d'abord que ce soit une sorte de juridiction supranationale qui décide d'interdire un média, c'est la première chose. Deuxième chose, que RT France soit une chaîne pro-russe, oui, l'actionnaire principal, comme on dit, c'est le gouvernement russe. Mais on met le doigt dans un engrenage très très compliqué, parce que dès lors qu'je pense à ce qui s'est passé avec France 24 sur d'autres théâtres d'opérations où France 24 pour des raisons équivalentes finalement a été interdite d'antenne dans les pays qui ne supportaient pas le regard de France 24, on met le doigt dans un engrenage compliqué, parce que en réalité je voudrais qu'on m'explique où commence la propagande et où se termine la liberté des expressions, et puis on sait tous que quand on a un actionnaire de référence, qu'il soit privé ou public, on numérote ses abattis sur ce qu'on dit, par définition, personne n'est dupe. Et d'ailleurs, j'écoutais sur France Info tout à l'heure un papier sur RT France, on sent que les journalistes du service public sont un peu embêtés sur cette affaire de RT France, parce que ils ont écouté, je crois hier, l'intégralité de ce qui a été fait sur cette chaîne, qui n'est pas disponible d'ailleurs sur la TNT gratuite. Alors ils ont sorti un ou deux extraits d'intervenants qui justifiaient l'intervention russe en Ukraine, mais ils étaient finalement équilibrés dans leur reportage. Ouais. Donc c'est peut-être une façon pour l'Union européenne de montrer sa cohérence, son union, son autorité, mais juridiquement c'est compliqué quand même, et puis moralement, d'un point de vue journalistique, c'est pas si simple, je trouve. Voilà. Que la communication soit un élément élément fort d'une crise militaire ou d'une guerre, ça a toujours été le cas. J'ai été un peu étonné de la sortie de Madame von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, sur le sujet. Maintenant, comment l'ARCOM, qui a succédé au CSA, va traiter le dossier, c'est pas si simple. Et puis que va être la mesure prise par le gouvernement russe, notamment pour France 24, parce qu'ils ont des reporters là-bas, ils ont des gens qui travaillent sur place. Est-ce que de la même manière, ils vont considérer que France 24 fait une sorte de propagande pro-occidentale, pro-européenne ? Je n'en sais rien, mais voilà, c'est mettre le doigt dans un engrenage très compliqué.
On va y revenir dans un instant avec vous, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous allons évidemment beaucoup parler de l'Ukraine. On parlera également de Valérie Pécresse, qui est donnée quatrième derrière Jean-Luc Mélenchon. Et puis cette question, est-ce qu'il faut un débat, absolument, un débat présidentiel ? On en parle avec Éric Revel, journaliste éditorialiste sur Sud Radio. Vous le retrouvez tous les matins à 9h dans Revel en campagne. Dominique de Montvalon, journaliste politique. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Et Kevin Bossuet, professeur d'histoire. histoire en Seine-Saint-Denis. Peut-être un mot pour, si vous voulez continuer à commenter sur RT, Kevin Bossuet, sur effectivement ce sentiment un peu de malaise pour certains, de se dire est-ce qu'il faut interdire cette chaîne.
Moi, je suis pas forcément d'accord avec Eric. Moi, j'ai honoré plusieurs invitations sur RT France, donc avec plaisir, parce qu'à l'époque, je trouvais normal, en effet, qu'on puisse avoir une diversité d'opinions avec un point de vue, en effet, plutôt pro-russe. Mais là, enfin, nous sommes quand même en guerre. Enfin, le but, en effet, c'est de... Surtout que nous sommes dans une bataille de l'opinion. Le but, évidemment, c'est de faire en sorte, en effet, que l'opinion publique de l'Europe occidentale, finalement, soit profondément anti-Poutine pour contribuer à remporter cette guerre. Et la censure, finalement, de Russia Today ou encore de Sputnik, le but, c'est quoi? C'est tout simplement faire en sorte de faire peser géopolitiquement encore un peu plus. Ça rejoint toutes les mesures, toutes ces sanctions économiques, etc. Et moi, j'y suis plutôt favorable. Je trouve que ça participe à cela, parce que quand même, Sputnik ou Russia Today, c'est quand même des organes d'influence au sein, en effet, de notre pays, au sein de l'Union européenne. Pour moi, ça ne me pose aucun problème, même si, évidemment, je ne tape pas sur tous ces journalistes qui, sans doute, ont fait du bon travail. Mais à un moment donné, nous sommes en guerre, il faut choisir.
Mmh. Oui, après, on peut... Il y a encore une fois, il y a l'ARCOM qui est là pour veiller au respect de la ligne éditoriale. Donc, ça fait combien, 3 ans que la chaîne existe, il n'y a pas eu de sanctions particulières depuis ces... Vous en pensez quoi, Jacques Isabello?
Ça fait partie de l'arsenal qu'a expliqué Kevin, et je suis complètement d'accord avec lui. Rappelons-nous que le président de la République, quand il a reçu Vladimir Poutine sous les ordres de Versailles, on s'en souvient tous, il a, en conférence de presse, adressé un message très très clair au président de la Russie, et c'est notamment plein du rôle de Russia Today, de Sputnik et de tout l'écosystème d'influence mis en place par la Russie. Donc, ne pas le faire, on n'aurait pas compris. Est-ce que c'est déontologiquement acceptable d'un point de vue journalistique comme on l'entrevoit en France? Évidemment non, mais le sujet n'est pas là. Et puis après, de rappeler que la censure, la propagande et aujourd'hui les fake news font partie d'armes de guerre. Rappelez-vous, la dernière fois que je suis venu ici, je vous parlais des nombreux actes de cyberguerre et de cyberharcèlement qui étaient déjà mis en place. Ça en fait partie aussi. Tout le monde, en tout cas tous les Français, voient ce que ça veut dire d'éteindre les faisceaux de Russia Today et de Sputnik, et ça fait partie des messages
d'un
que
ensemble
doivent
de,
passer les
de,
gouvernements.
De mesures, Dominique, sur Russia Today?
Je pense que deux choses. Je pense qu'un peu plus tard, dans quelques mois, et de façon posée, il faudra avoir une réflexion de fond sur le traitement de problématiques de cet ordre, et ne pas le... Il y a des choses nouvelles. Bon, deuxièmement, imagine-t-on aujourd'hui l'équivalent de Russia Today à Moscou, c'est-à-dire une chaîne américaine qui serait installée là et qui reprendrait plutôt la vision américaine, européenne, c'est autre chose. Mais j'aurais dû tout de suite aller à l'essentiel. J'ai écouté plusieurs fois Russia Today, et pas dans les dernières heures. Il est très difficile. Eh ben, je suis contre l'amalgame. Je ne mets pas tout le monde, en général et en particulier. Mais néanmoins, globalement, c'est confondant en matière de propagande. C'est même incroyable. On aurait presque envie, de la part de tel ou tel, de leur tenir la main ou de leur dire voilà comment vous devez vous y prendre pour atteindre le but qui est le vôtre, en étant quand même un poil plus crédible. C'est incroyable. Ouais. Alors maintenant...
pour dire quand même que Eric Revel a un peu raison, mais le sujet n'est pas là. Rappelez-vous, c'est documenté, si ça vous intéresse, lisez le bouquin de David Colomb sur ces sujets-là, qui s'appelle Propagande. Lors de la première guerre en Irak, les Américains mandatent l'agence Ellen Knowlton, qui est une agence qui a pignon sur rue aujourd'hui, qui met en place des opérations qui consistent à dire les Irakiens prennent les bébés des maternités koweïtiennes et les jettent par terre, ce qui était totalement faux. Donc les fake news et l'utilisation au sein du centre de planification et de coordination des opérations au ministère des Armées, il y avait dans le temps un bureau qui s'appelait le bureau J9, qui était chargé de la propagande et de la désinformation. Donc évidemment, et ça passe, on n'a pas interdit CNN parce que CNN a repris cette information. Quand l'ancien président, ministre des Affaires étrangères brandit une petite fiole en disant « Attention, c'est de l'anthrax et il y en a partout en Irak », la désinformation fait partie. On n'a pas interdit dit, tous ces médias-là. Donc, je minore un peu en disant
qu'Éric Revel a raison. Mais il y a des contradictions aussi,
mais
attendez,
le sujet
là, c'est curieux
là.
Ce que vous dites.
Le sujet, c'est de dire, nous sommes opposés à l'invasion de la part des Russes en Ukraine, et nous utiliserons tous les moyens pour montrer à l'opinion publique, comme l'a dit Kevin, que, eh bien, nous affirmons notre principe, et nous essayons de gagner le cœur de l'opinion publique.
Et puis après,
Eric, surtout que moi, j'ai écouté Russia Today. Enfin, au départ, on nous racontait quand même sur cette chaîne que les civils ukrainiens avaient été épargnés, alors qu'on sait très bien, en effet, que c'est faux. Donc, on est ici dans une forme de fake news. Donc, en effet, ça pose problème à un moment où on doit être unis pour combattre, en effet, Vladimir Poutine, et évidemment qu'il faut fermer ses organes d'influence. Nous sommes en guerre, point. On choisit son camp.
Et Eric, c'est quoi de la propagande? Parce qu'on a des auditeurs qui nous disent, oui, mais France Télévisions, CNN, tout ça, c'est news, c'est pas de la propagande aussi? Vous qui avez été patron de chaîne.
Oui, bien sûr. Bah, écoutez,
et qui était
oui,
sur des théâtres de guerre, mon cher Eric, ouais. Rappelle-t-en.
Oui, non, mais au-delà du fait que on ne découvre pas, par définition, qu'un média est un vecteur de communication et de propagande puissant lors de guerres ou lors de conflits. Personne ne découvre ça. Ce qui m'interpelle un peu, c'est d'abord que ce soit une décision européenne. Hein, vous avez vu, c'est Thierry Breton, le commissaire européen, qui a fait un tweet et qui a annoncé avec des petites croix rouges que tout était terminé pour ces médias-là. Mais dans ces cas-là, je vais vous dire, il faut aller plus loin. Alors, il faut aller plus loin. Il faut même interdire, mais c'est difficile, de réseaux sociaux, ceux qui se livrent des deux côtés à de la propagande. Aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Et ça, évidemment, c'est beaucoup plus dévastateur, parce que on a vu, par exemple, sur une chaîne américaine, des images qui illustraient, alors parfois on sait comment on illustre à la va-vite un reportage, ok, mais dans ces cas-là il faut faire très attention à ce qu'on diffuse comme image. On a vu un bâtiment en feu qui visiblement n'était pas un bâtiment du tout ukrainien, mais qui était une attaque, si j'ai bien compris, lors de la guerre en Syrie. Donc la manipulation d'images sur des médias installés, elle a toujours été évidente, et c'est une arme de guerre, j'en suis tout à fait conscient. Mais sur les réseaux sociaux, quand vous regardez bien, il y a un paquet de fake news que je ne vais pas les qualifier plus d'un côté que de l'autre, mais il y a un paquet de fake news. Or, les réseaux sociaux aujourd'hui sont bien plus puissants à l'échelle mondiale en termes de vecteurs de communication que n'importe quel autre média installé dans un pays. Maintenant, je comprends le point, c'est-à-dire que Spoutnik ou RT Russia, évidemment, par définition, ils sont plus enclins à diffuser des images qui vont montrer que les Russes sont dans leur bon droit, ou avoir des analystes qui l'expliquent, que le contraire. Ça, c'est juste. Alors après, choisir son constat, Kevin, quand vous employez le mot de censure en disant, c'est une censure. Oui, mais justement, c'est ça le sujet. Le sujet de fond, au-delà du cas actuel qui est dramatique, qui est cette guerre en Ukraine, qui est inqualifiable, menée par Vladimir Poutine dans une espèce de course sans fin qui va peut-être d'ailleurs l'amener dans le mur, au-delà de ça, c'est la question de la censure. Vous avez raison, c'est la question de la censure. À partir de quel moment on considère qu'un média est aux ordres et diffuse une propagande? Et à partir de quel moment on se dit c'est une opinion différente et une façon de voir les choses différente? Maintenant, quand on est en guerre, évidemment, quand on est en guerre, ce qui est le cas de l'Ukraine face à la déferlante militaire russe, vous avez raison de dire qu'on ne peut pas laisser derrière soi, dans des pays comme les nôtres, des médias qui diffuseraient une propagande éhontée. Mais c'est juste la frontière, si j'ose dire, entre les deux, qui est compliquée. Qui est très compliqué, parce que ensuite, quand on va avoir un sujet, espérons-le, moins dramatique qu'une guerre dans un pays, mais des sujets qui vont être des sujets commerciaux, qui vont être des sujets d'espionnage, à partir de quel moment un État dira, écoutez-moi, comme vous parlez de ce sujet-là d'une manière qui ne me convient pas, je censure votre média et je le ferme.
Eric, ça c'est votre métier aux journalistes. Rappelez-vous, quand Michel Rocard traite Guillaume Durand de salopard parce qu'il fait son métier en rapportant ce qui s'est passé sur le terrain, c'est votre métier de journaliste d'expliquer à nous, pauvres crédules, à partir de quel moment les gens doivent prendre du recul. Quand un journaliste est embedded, Je veux dire, le journaliste, c'est pas un soldat de guerre, c'est pas Rambo quand il parle avec l'armée française et que c'est marqué presse sur son gilet pare-balles et qu'il est convoyé d'un endroit à un autre, il se barre pas n'importe où, sinon il va se faire étriper. Donc de toute façon, ce sujet-là, dès que vous êtes sur des théâtres d'opération, vous devez le gérer. Et la question que vous posez, cher Eric, c'est quand on blâme BFM TV pour avoir diffusé l'intervention du raid lors de la prise d'otage à l'hypercachère ou le boulot de Guillaume Durand, où est la frontière? Où est-ce qu'on est dans l'information et où est-ce qu'on est dans la propagande? Mais là, c'est votre métier d'arriver à trouver une posture pour que les gens sachent à un moment quand même que l'information est une arme et qu'en tant que journaliste, eh bien, vous êtes plus objectif à partir du moment où vous avez une nationalité d'une certaine manière. Pardon, c'est peut-être un peu brutal de vous le dire comme ça, mais c'est à vous de dire, bah, ouais, voilà, alors, où est-ce que j'en suis.
Kevin, alors, j'ai parlé de censure, j'y suis peut-être allé un peu fort, parce que moi j'ai regardé les chaînes info LCI, CNews et BFM. En fait, la vision pro-russe, on l'a également sur ces plateaux, évidemment. Sauf qu'on a aussi un contradictoire. Donc en fait, on n'est pas là dans la censure, on est là dans la fermeture d'un organe qui n'est là, en effet, que pour diffuser l'idéologie de Vladimir Poutine. Et en temps de guerre, ce n'est pas acceptable.
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Kevin Bossuet.
Mais ça fait partie, et ce que disait aussi Kevin, d'un ensemble de choses, de sanctions. Il y a la FIFA qui a donc, après beaucoup de tergiversations, décidé d'interdire la Russie de coupe du monde au Qatar. Et puis, alors là, plus étonnant, la Philharmonie de Paris qui annule des concerts du chef d'orchestre pro-Poutine, Valéry Gergiev, là aussi. Donc ça fait partie de cet ensemble de mettre la Russie au banc du monde, quoi, au banc de tous les pays, quels que soient les secteurs. On va marquer une petite pause et on revient dans un instant. On va parler en particulier de l'économie russe. Que risque-t-elle et quelles conséquences également sur les autres pays, les autres pays du monde. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. On va zapper un peu les coups de cœur, les coups de gueule parce qu'on a pris du retard. Et on va parler de ce qui se passe d'un point de vue de l'économie. Écoutez ce que disait ce matin Bruno Le Maire à propos des sanctions économiques.
Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. À la Russie, à Vladimir Poutine, à son gouvernement, mais le peuple russe en paiera aussi les conséquences. Soyons clairs, nous voulons viser le cœur du système russe, nous visons Vladimir Poutine, nous visons les oligarques, mais nous visons aussi toute l'économie russe. Nous avons donc préparé un train de sanctions qui sont en cours d'examen actuellement. Je pense qu'on aura les propositions de la Commission européenne ce matin. J'ai eu hier très longuement au téléphone la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, pour préparer, si nécessaire, un nouveau renforcement des sanctions économiques et financières. Nous aurons une réunion du G7 cet après-midi sur le sujet, et j'ai convoqué également demain une réunion des ministres des Finances européens pour m'assurer de la bonne exécution de ces sanctions. Elles doivent frapper vite, elles doivent frapper fort, et on en voit, comme vous l'avez dit, déjà les effets. Les réserves de change russes sont en train de fondre comme neige au soleil, et le fameux trésor de guerre de Vladimir Poutine est déjà réduit à presque rien.
Alors, c'est vers le journaliste économique que je vais me tourner peut-être en premier, Eric Revel, l'analyse que vous faites de cette guerre économique. Est-ce qu'on est en guerre, nous aussi, d'une certaine manière, finalement, avec ces actions ?
Écoutez, si on part du postulat que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force, l'argent étant le nerf de la guerre par définition, taper au portefeuille l'économie russe, et Bruno Le Maire a raison de rappeler que le peuple russe va en souffrir en premier, c'est évidemment une façon très forte de faire pression. Je rappelle que en 2014, lors de l'invasion de la Crimée par la Russie, des sanctions avaient été mises sur la table. Alors plutôt beaucoup moins forte que ce qui est proposé aujourd'hui. Et entre 2014 et 2021, la Russie avait considérablement renforcé son indépendance financière. On dit que la banque centrale russe avait acheté jusqu'à 2000 tonnes d'or. que la Russie était devenue exportatrice de blé pour justement pouvoir être en mesure de faire face à de nouvelles sanctions. Ce qui, entre parenthèses, montre que peut-être déjà dans la tête de Poutine, l'affaire ukrainienne était présente dès 2014-2015. Maintenant, ce qui est sûr, en tout cas si on en croit les images, n'est-ce pas, montrées par les médias, qui sont objectifs par définition, eh bien, on assiste à des retraits massifs dans les banques russes, on assiste à des faillites d'entreprises, on a vu que l'une des principales filiales bancaires du système russe est en quasi faillite. On sait aussi que, globalement, puisque c'est public, les réserves de change de la banque centrale russe permettent une vingtaine, 20-25 jours de financement des importations. Donc on voit bien que toutes ces mesures-là sont en train de prendre corps et, comme le dit Bruno Le Maire, peut-être avec un manque quand même un peu d'humilité, on va effondrer l'économie russe. Toutes ces sanctions sont en train d'atteindre leur cible, si j'ose employer ce lexique guerrier. Et ce qui est peut-être plus important aussi, au-delà de la contestation naissante à l'intérieur de la Russie, et notamment à Moscou et à Saint-Pétersbourg, on le voit avec des manifestations, c'est que certains oligarques qui doivent tout à Vladimir Poutine, notamment, qui se sont extrêmement enrichis. Il y a une centaine de milliardaires russes qui auraient vu leurs avoirs à la fois gelés et s'effondrer avec les différentes participations qu'ils possèdent. En fait, on voit que certains oligarques sont en train de contester en interne ce qui se passe au Kremlin et la vision guerrière, ultra-guerrière de Vladimir Poutine. Ouais. Donc en fait, Vladimir Poutine est dans une situation compliquée. Il doit essayer, j'imagine, de gagner la guerre rapidement parce qu'il va manquer d'argent. Ouais. Et en même temps, on voit que sa fragilisation, à cause de l'effondrement potentiel de l'économie russe, n'est plus une vue de l'esprit.
Oui. On voit que donc ces mesures dont on se moquait un petit peu la semaine dernière en disant ça ne fera rien, on voit qu'aujourd'hui c'est assez sérieux. Il y a la Suisse qui est sortie de sa neutralité,
Monaco
absolument, qui a décidé de les mêmes sanctions que l'Union européenne.
Le message est très clair de la part du ministre de l'économie. Là encore, c'est une rhétorique qui est très intéressante. Le concept de guerre totale, c'est un concept qui a été créé par Karl von Clausewitz, qui parlait de guerre absolue. Quand Bruno Le Maire utilise ces termes-là, eh bien, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon, après, quand on lui demande si effectivement on va arrêter d'acheter du gaz russe, là, la rhétorique prend un petit peu de la hauteur et la langue de bois accompagne des termes assez clairs. Mais c'est vrai que ça fait partie un peu de ces messages qui doivent passer au sein de l'Union européenne. On a vu que la semaine dernière, on tâtonnait un peu dans tout un tas de pays. Aujourd'hui, la coordination de l'Europe, il faut le souligner de temps en temps, on ne peut pas que lui taper dessus, est beaucoup plus intéressante, elle est claire et elle donne des perspectives, si on se posait des questions là-dessus, qui trouvent un écho, en tout cas, dans les propos de Bruno Le Maire ce matin en ce qui concerne l'économie russe.
Alors, il va y avoir des conséquences, évidemment, sur la France. Catherine, qui est une auditrice, me signale, Engie chute après une déclaration du ministre de l'économie sur la Russie, les entreprises françaises qui ressentent déjà les effets des sanctions économiques contre la Russie, avec des ventes qui se sont arrêtées. Oui.
Juste ce que disait Bruno Le Maire aussi, puisque vous avez vu que les groupes pétroliers Shell et BP se désengagent de Russie. Pour l'instant, Total, c'était encore pas le cas, mais on sent bien que dans la déclaration de ce matin de Bruno Le Maire, que Pouyanet, le patron de Total, va sans doute pas avoir d'autre choix, alors qu'ils ont investi massivement en Russie, que de quitter la Russie. Donc, bien sûr, l'économie russe risque rapidement d'être exsangue financièrement, mais il y aura des effets collatéraux puissants sur des intérêts français, sans parler évidemment de la hausse du prix du baril.
De l'énergie,
En gros, on a 3 mois de réserve stratégique en France, mais si ça continue, évidemment, le prix du litre d'essence à la pompe va s'envoler.
Explosé,
Bon, tout ça, ce sera après les élections présidentielles, bien sûr.
Ça veut dire quoi? Qu'on arrive à contenir le prix du baril avant les élections?
On a des réserves stratégiques qui nous permettent, oui, de contenir la hausse du prix de l'essence et du gasoil. Ce que je veux dire, c'est que l'effondrement de l'économie russe aura aussi des implications dans les pays européens comme la France et l'Allemagne. N'oublie pas que l'Allemagne dépend à 60% pour ses livraisons de gaz de la Russie. C'est considérable.
Oui, Dominique de Montvalon, sur cette guerre économique.
Je suis pas totalement sur la ligne qui vient d'être évoquée, mais sans compétences économiques de ma part. Je dirais que pour la première fois, je tiens Bruno Le Maire pour un excellent ministre, pédagogue et ferme. Et ça ne date pas de 15 jours, dans mon cas, cette appréciation. Mais là, ça me laisse un peu perplexe, cette façon.
Parce que la manière de faire,
les propos tenus,
très durs et très va-t-en guerre.
Alors, si jamais Poutine craque et que le rapport de force est tel que il rend les armes, en quelque sorte, je retirerai aussitôt les interrogations et même les préventions que j'exprime à l'instant. Mais il faut réfléchir. Alors, il y a ce qui a été dit d'ailleurs, c'est qu'il y a aussi des mesures il y a des conséquences et des mesures de rétorsion pour nous Européens dans cette affaire. Mais c'est pas ça qui me frappe. Il faut réfléchir à la suite. Ouais. À la suite, évidemment, aujourd'hui, on fait la guerre, et on se demande si Kiev va être bombardé, etc. Donc on a le frisson, et on ne sait pas comment ça va tourner, on ne sait pas du tout. J'évoque même pas le fait qu'a été évoquée la force de dissuasion russe. Mais il faut réfléchir à la suite. Il faudra bien que la Russie trouve une porte de sortie. Oui. Et ce n'est pas en la liquidant sur place et en essayant en disant que l'objectif est de ruiner complètement l'économie russe. Les Russes le paieront, la Russie le paiera, nous aussi. Oui. Mais même pour l'équilibre géopolitique du monde, qu'est-ce qu'on veut?
C'est pas contradictoire, Dominique, avec ce que je disais. C'est pas du tout contradictoire avec ce que je disais, c'est-à-dire que la finalité, c'est d'effondrer l'économie russe, mais vous avez tout à fait raison, et je voulais ajouter ce point, c'est que, attention à ne pas, trop humilier Vladimir Poutine, s'il n'a pas une porte de sortie,
considère déjà être très humilié, alors.
Un cessez-le-feu, on risque le pire.
Kevin Bossuet.
Alors là, j'ai une auditrice qui m'interpelle sur les réseaux sociaux en me disant que finalement, on n'en a rien à faire de cette guerre, ça ne concerne pas, ça concernerait en effet la Russie et l'Ukraine, sans qu'elle ne comprend pas en effet qu'il va y avoir des impacts économiques très important sur notre société en France, et le prix de l'énergie va augmenter. Et derrière ces sanctions économiques, en fait, il y a la bataille de l'opinion publique, l'opinion publique russe, parce qu'à partir du moment où on va toucher au portefeuille du russe moyen, forcément, ce dernier va peut-être se demander si cette guerre est légitime ou pas, surtout qu'actuellement, on attaque quand même l'Ukraine. Enfin, les Ukrainiens, pour les Russes, c'est quand même un peuple ami, un peuple frère. Il y a deux tiers, en effet, des Russes qui ont de la famille, notamment en Ukraine, et c'est pour ça on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la bataille des médias. Il y a d'ailleurs le groupe Anonymous qui a piraté des chaînes de télévision russe, tout simplement pour diffuser le fait que Vladimir Poutine s'en prenait également à des civils. Donc le but, c'est évidemment d'asphyxier l'économie, c'est évidemment d'asphyxier le peuple russe pour qu'il se retourne contre Vladimir Poutine et pour qu'il dise stop. Et je rappelle qu'en 1917, il y a une révolution en Russie, notamment parce que les gens crevaient la dalle.
Mais l'économie, c'est extrêmement important dans une guerre. Rappelez-vous quand les Allemands sont allés faire la guerre en Crète parce qu'ils avaient une ambition de bloquer la route des carburants lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut dire à cette auditrice que nous sommes un des grands fournisseurs de la Russie. Est sans doute les plus embêtés. Nous, on a énormément d'intérêt. Pourquoi il y a autant d'hommes politiques qui sont russophiles? Parce qu'on a énormément d'intérêt en Russie. Donc, on est un grand pays mondialisé. On n'est pas désintéressé
par les impacts.
Allez, on marque une pause et on continue ce débat dans un instant.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat.
Les débats avec vous sur Sud Radio, on parle de l'Ukraine, de cette guerre économique avec, encore une fois, vous l'avez entendu, Bruno Le Maire extrêmement déterminé, des conséquences aussi pour l'Occident, pour nous, évidemment. J'avais envie d'évoquer aussi un sujet qu'on a très, très peu abordé hier, qui est ce qui se passe aussi en Ukraine, c'est-à-dire, c'est un article du Point qui reprend The Independent, l'Ukraine refuge inattendue des leaders de Daesh en exil. C'est-à-dire que l'Ukraine n'est pas non plus le paradis. Alors, ça ne justifie en rien l'invasion russe, mais c'est pas non plus les gentils contre les méchants surtout sur toute la ligne. Et c'est vrai qu'il y a énormément de chefs de Daesh qui ont trouvé refuge là-bas, qu'on va livrer des armes. Manu Largo à des gens là-bas dont on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Je trouve que cela est assez, assez inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Kevin,
Oui, non, mais en effet, c'est inquiétant, mais il ne faut pas voir le... Enfin, je pense que les gens confondent en fait explication et prise de position. En effet, moi, ce que j'ai entendu parfois de la bouche d'Éric Zemmour, j'étais plutôt en accord. Le fait de dire que, par exemple, l'OTAN a aussi sa part de responsabilité, que l'Union européenne a aussi sa part de responsabilité. C'est vrai qu'on a humilié pendant plusieurs années Poutine. Il est vrai qu'on n'a pas appliqué les accords de Minsk. En effet, ça, cela faisait 8 ans que ces accords n'étaient pas appliqués. Je peux comprendre le cheminement intellectuel et je peux comprendre en effet, cela, par contre, quand on est dans une prise de position, à un moment donné, il faut trancher. Nous sommes en guerre, malgré ce que disent certains sur les réseaux sociaux, et il faut choisir son camp. Et moi, mon camp, c'est celui de la France, c'est celui de l'Europe, c'est celui des libertés, c'est celui de la souveraineté des États. Et si on n'arrête pas Poutine maintenant, après, est-ce qu'il ne va pas s'en prendre à la Moldavie? Est-ce qu'après, il ne va pas s'en prendre à la Pologne, aux Pays baltes, etc.
Quelle sortie de crise, Éric Revel l'évoquait.
L'économie est une arme majeure parce que bloquer la moitié des avoirs des oligarques et de la Russie, ces fameuses réserves d'or, elles sont à l'extérieur. Et quand Bruno Le Maire parle ce matin de saisie, hein, il ne parle pas de bloquer les avoirs, quand il parle de saisie, c'est des choses qui sont juridiquement compliquées et qui ont un poids extrêmement important. L'économie a tout le temps dicté la conduite de la guerre et a été une des raisons du succès dans les années précédentes. Donc c'est un point important. On a à peu près ce truc-là en Europe. On est arrivé à construire la première puissance économique européenne, comme le rappelait le maire. Il faut appuyer très fortement là-dessus. Et en plus, ça fera beaucoup moins de pertes humaines que le reste.
Ça va être très compliqué. Je vois les banques russes ne peuvent plus émettre de cartes Visa ni Mastercard. Pour l'instant, les cartes bancaires fonctionnent encore, mais à terme, elles ne pourront plus fonctionner. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez, Éric Revel, c'est cette espèce de blocus
complet. Et les oligarques savent que si jamais ils essayent de trouver, et Éric pourra le confirmer, ils essayent de trouver des flux parallèles de financement ou pour faire du business en dollars, ils peuvent finir embastillés pour 15 ans, comme les Américains l'ont fait avec le numéro d'Alstom à l'époque où ils voulaient racheter une des branches du groupe. Donc c'est une arme qui est extrêmement puissante pour tous ces gens qui financent des clubs de foot, qui financent tout un tas de trucs, qui détient Megève en France dans les stations de ski, etc. etc. L'économie, c'est quand même quelque chose qui leur fait extrêmement peur.
Ouais. Moi, je dirais, Kevin Bossuet disait il y a quelques instants, on a humilié Poutine. Moi, je ne dirais pas les choses comme ça, mais j'entends tout à fait cette analyse.
C'est la guerre, hein,
il se présente comme ayant été humilié par les Européens. C'est déjà différent. Mais le reproche qui ne porte pas sur la situation présente, aujourd'hui, il faut choisir son camp, si je veux dire, qui que ce soit ne va pas, raisonnable et normalement constitué, ne va pas choisir le camp de Poutine, enfin, de mon point de vue. Bon. Mais il faut voir la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation, c'est que les Européens n'ont pas eu de politique russe depuis la chute du mur de Berlin, je veux dire, n'ont pas eu de politique russe. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural, célèbre phrase du général, mais ils sont là. Il y a la Chine, dont on ne parle pas. Il y a les États-Unis, qui, avec Biden, flottent. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont nos amis, ce sont nos alliés, mais ça n'empêche pas qu'on est capable de regarder les choses en face. Ils ne sont pas très, très rassurants. Non. Bon, ils sont là quand même, hein, mais enfin, bon. Et on n'a pas eu de politique vis-à-vis de la Russie. Mais alors, c'est traduit par le camarade Poutine, par on l'a humilié. Bon, c'est bien gentil. Aujourd'hui, ceux qui se font massacrer ou qui risquent de se faire massacrer, ce sont ceux qui seront sous le feu des armes des soldats
alors,
de Poutine.
On a un auditeur, Guillaume, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonjour, Guillaume.
Oui, bonjour.
Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ?
Mais je voudrais vous dire que on entend quand même de la part de certains de vos chroniqueurs qu'un seul son de cloche, quoi. On dirait que toute la population européenne veut soutenir l'Ukraine. Bon, excusez-moi, moi je me sens pas très concerné par ce conflit. Moi, je suis agriculteur. Nous, depuis les premières sanctions, on peut plus vendre à la Russie. Donc, il y a des gens qui produisaient des pommes et des poires, de ce genre de produits. Il a fallu qu'ils arrachent les vergers. Ensuite, pour nous, la guerre en Ukraine, bon, c'est vrai que les Ukrainiens, déjà, c'est pas l'Europe. L'Ukraine, c'est les confins de l'Europe, mais ça, ce n'est pas l'esprit européen. Et ensuite, je vois pas la différence entre la guerre en Ukraine et la guerre en Syrie, par exemple. La guerre en Syrie ou la guerre en Irak, quoi. Moralement, la guerre en Ukraine, elle vaut ni plus, ni mieux, ni moins bien que la guerre en Irak. Pourtant, quand il y a eu la guerre en Irak, j'ai pas vu les fédérations de foot exclure les États-Unis ou les fédérations de judo ou alors tout ça. Donc là, on est embarqué dans quelque chose. Mais si on prend pas garde, ça va nous retomber dessus aussi, parce que Poutine, il avait annoncé qu'il fallait faire attention avec les sanctions économiques. Parce que il a fait des menaces, mais les menaces, elles peuvent passer à exécution, je vous signale. Est-ce que tous les chroniqueurs là qui sont sur vos plateaux, qui sont des vats en guerre, ils ont envie d'envoyer leurs enfants un jour sur un front aux frontières de l'Europe?
Non, mais
monsieur,
je ne me sens pas concerné.
Si on est dans une logique comme ça, il faut aller jusqu'au bout après aussi.
On va vous répondre, Guillaume. Eric, vous disiez quoi, que vous ne vous sentez pas concerné?
Ah ben non, moi je me sens pas concerné parce que j'essaie de mettre de l'équilibre justement depuis le début de ce débat, ma chère Valérie, dans les positions des uns et des autres, même si évidemment l'agresseur c'est Vladimir Poutine, mais je partage quand même. Je partage. La seule différence, cher monsieur, c'est que quand vous parlez des confins de l'Europe, le confin de l'Europe, il se rapproche assez rapidement, si on laisse faire Vladimir Poutine, de l'Europe tout court. Donc ça, c'est quand même un sujet. Maintenant, pour le reste, vous avez raison, moi j'essaie d'avoir une position, j'allais dire, relativement équilibrée et rationnelle. Et je dis que si l'effondrement de l'économie russe a lieu, c'est terrible pour le peuple russe et c'est terrible pour les conséquences qu'on va avoir en France, notamment sur le prix des céréales pour nourrir le bétail, notamment des agriculteurs français. Mais surtout, c'est qu'on va pousser Vladimir Poutine dans une impasse alors que la négociation est en cours, et que si Vladimir Poutine est dans une impasse, alors nul ne sait jusqu'où il peut aller dans sa réaction. C'est ça qui m'inquiète le plus.
Oui,
je suis d'accord. Je suis d'accord sur une partie, c'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'il faut laisser une porte de sortie à Vladimir Poutine, parce que apparemment, c'est un homme qui est profondément seul, qui est complètement coupé des réalités, qui est effrayé apparemment par le Covid, etc., et qui a une vision totalement déformée de la réalité, et là qui subit quand même échec sur échec. Donc, si on ne lui laisse pas de porte de sortie, la porte de sortie, ça peut être finalement un homme fou qui fait n'importe quoi. Ensuite, pour répondre à cet auditeur, mais l'Ukraine, c'est près de chez nous. Enfin, c'est à 2 heures d'avion de Kiev. Et si on n'arrête pas Poutine maintenant, après, il peut prendre la Moldavie, il peut attaquer les Pays-Baltes. Il a commencé à menacer des pays comme la Finlande, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut savoir ce que l'on dit. Et surtout, on protège nos frontières. On veut éviter, en effet, qu'on ait à se battre militairement. Donc, on aide, en effet, par les armes, la Russie, justement, pour qu'on n'ait pas à intervenir par la suite. Il faut neutraliser le plus vite possible la Russie, puisqu'après, il y a autre chose qui nous attend, c'est quand même la Chine. Je pense que dans les années, dans 30 ou 40 ans, la Chine va nous poser un sacré problème.
Peut-être
de mettre de côté la Russie, ça permet aussi, en effet, de mettre la Russie totalement à part et aussi de se concentrer sur le problème chinois qui est pour moi le problème du 21e siècle.
Après, il faut rajouter que, et dire à cet auditeur, premier point, on n'est pas des va-t-en-guerre. Kevin expliquerait beaucoup mieux que moi que la notion de souveraineté pour les États, c'est admis par la communauté internationale, c'est extrêmement important, c'est fondateur, et que Vladimir Poutine et la Russie ont signé ces choses-là. Donc, quand on viole la souveraineté d'un État, eh bien, c'est normal qu'on réagisse un peu comme ça. Et pour lui, en tant qu'agriculteur qui est citoyen d'une démocratie. Après, deuxième point, pendant la guerre, la diplomatie continue de s'exercer, mais elle ne s'exerce que si les militaires, en tout cas si les armes qu'on utilise sont puissantes. Donc il ne faut pas commencer à se dire que Vladimir Poutine va être acculé. Ce qu'il faut se dire, c'est à quel moment on peut faire comprendre au peuple russe que l'opinion publique pourrait changer, parce que les gens qui font la queue devant les banques chose. Les citoyens russes qui, après un bel hiver, vont se dire « Ah ben finalement, je ne vais pas pouvoir regarder les matchs de foot », et ben ces choses-là, c'est extrêmement important pour un peuple. Et si on appuie sur tout ça, et bien les gens vont commencer à se dire « Vladimir Poutine n'assure plus le bonheur du peuple parce qu'on aspire tous à ça ». Et donc, il faut continuer de l'acculer sans se demander s'il va sortir la tête de ses missiles des silos, parce que de toute façon, ils en ont 3005, les Américains en ont 3003, on en a 280. On sait très bien que ça a peu de chances d'arriver, parce que si jamais il était acculé, eh bien peut-être que les généraux pourraient se retourner, peut-être que les oligarques pourraient faire pression, et la population pourrait elle aussi se désolidariser, et les services de renseignement aussi. Il n'est pas aussi puissant qu'on croit. À partir du moment où il affaiblit le pays trop fortement, eh bien les gens en interne, ils peuvent le prendre par la peau des fesses et absolument les conduire.
Absolument.
Mais moi, je reviens aussi sur ce qu'a dit l'auditeur en nous présentant collectivement. Après, chacun doit répondre individuellement, bien entendu. C'est ce qui se fait d'ailleurs, comme des va-t-en-guerre. Je crois qu'il y a un malentendu. Peut-être avons-nous notre part de responsabilité dans la façon de formuler les choses. Absolument pas, je ne suis pas du tout un va-t-en-guerre. Mais dans le cas précis, nous parlons des Ukrainiens d'abord, parce que c'est eux qui reçoivent les bombes, c'est eux qui reçoivent les missiles, c'est eux qui voient arriver des chars, c'est eux qui voient les rayons des magasins au centre de Kiev se vider et se demandent comment ils pourront se nourrir dans les temps immédiats qui viennent. C'est eux qui, dans les gares, essayent désespérément, et quelquefois, vous avez vu les images, et aussi ça fait partie de la guerre, avec des femmes, avec des enfants, des bébés, etc., qui espèrent pouvoir monter dans un train en attendant qu'il parte, mais d'abord qu'il arrive pour commencer, mais en faisant la queue pendant 2 à 3 heures. Donc ce sont eux qui sont les cibles et les victimes, et on ne parle pas des dirigeants, là on parle du peuple. Bon, et s'agissant du fond de les choses, c'est Poutine qui nous met dans la situation, je ne veux pas le qualifier plus, on l'a fait clairement, c'est Poutine qui nous met dans la situation où nous sommes. Nous sommes dans une situation où on a un devoir de nous rebeller, en espérant trouver ensemble ensuite une solution, nous rebeller contre une situation effrayante qui pourrait, si ça dérapait, je me calme tout de suite, mais devenir cataclysmique. Enfin, je veux dire, faut pas, c'est pas une histoire de va-t-en-guerre, de dire, mais est-ce que vous voulez armer vos enfants, vos machins, etc. Bon, votre famille et tout. Non, c'est un réflexe normal. Maintenant, comme ça a été dit d'ailleurs, il faut écouter les uns et les autres, et je crois qu'on s'y efforce sans mettre un signe égal entre les uns et les autres.
Et puis Valérie, dire à Guillaume que lui, le business qu'il fait avec la Russie, parce que l'agriculture est très impactée par ce qui se passe en Ukraine et en Russie, il fait du business avec des agriculteurs russes qui ne sont pas forcément poutinophiles, qui ont intérêt que la paix se réinstalle pour que lui puisse faire les meilleures affaires avec des gens qui ont un sens de l'agriculture qui est tout à fait...
Et ajouter juste une chose, pour ajouter qu'à l'échelle, comme ça a été dit, de l'avenir dans les 20, 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, évidemment, avec l'omniprésence de la Chine, qui est déjà très importante. Tout ne se réduira pas à la Chine, mais c'est très important. On s'apercevra à ce moment-là, j'espère qu'on aura tourné le plus possible la page dramatique que nous vivons actuellement, on s'apercevra que nous avons des intérêts communs, géographiques, géopolitiques, économiques, financiers, à trouver des accords forts, plus forts qu'aujourd'hui ou plus forts qu'hier, entre l'Europe et la Russie.
On va marquer une petite pause, petite note, je ne sais pas si c'est de l'humour ou pas, en tout cas peut-être que la guerre va s'arrêter, grâce à Gérard Depardieu qui est proche de Poutine et qui lui demande d'arrêter les armes et de négocier.
C'est bien.
Voilà.
GG, d'accord avec nous.
Peut-être que Gérard Depardieu sera entendu par Vladimir Poutine. Et un autre internaute dit, selon certaines sources, Miss France pourrait sortir de son silence et souhaiter la paix dans le monde. On se retrouve. Voilà, on se retrouve dans un instant. On va revenir un petit peu en France quand même avec la chute de Valérie Pécresse dans les sondages. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, débat.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, parlons donc un petit peu de la campagne, de la non-campagne plus précisément. Tout s'est arrêté évidemment avec ce qui se passe en Ukraine. Hier, un sondage ELAB donnait Valérie Pécresse à 12%, dernière Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai que la tendance, nous, dans notre sondage IFOP, elle est à 13%. Elle est dans une tendance baissière, on va dire. Elle n'imprime pas et elle ne marque pas de points. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle s'attaque à Éric Zemmour, elle s'attaque à Marine Le Pen, elle s'attaque à Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la bonne stratégie? Je ne sais pas qui veut commenter la situation dans laquelle se trouve Valérie Pécresse, qui a suivi d'ailleurs l'appel d'Éric Zemmour d'envoyer Nicolas Sarkozy comme médiateur en Ukraine. Moi, j'ai eu des proches de Nicolas Sarkozy qui me disent elle a peut-être parlé avec son répondeur, mais en tout cas, lui, il ne lui a pas parlé. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que là, c'est... Éric, peut-être ? Éric Revel ?
Oui, je peux commencer en disant que, historiquement, dans une campagne présidentielle... Les intentions de vote se cristallisent fin février, les courbes s'inversent et c'est difficilement rattrapable. Donc si je fais ce constat historique, ça veut dire que Valérie Pécresse est dans une situation extrêmement compliquée. Si elle décroche maintenant, c'est peu probable qu'elle reprenne de la hauteur. Donc ça veut dire que derrière, si elle n'est pas au second tour, ce qui en prend le chemin évidemment, si elle n'est pas au second tour, derrière les Républicains explosent. Parce Absolument. Que je pose toujours une question très simple, c'est que si Valérie Pécresse n'est pas au second tour, elle appelle à voter pour qui? Pour le président sortant, s'il est au second tour. Bon, là, les Républicains explosent. Elle appelle à voter pour un candidat de droite nationale, si c'est le cas. Et là, les Républicains explosent. Enfin, dans tous les cas de figure, si la représentante des Républicains n'est pas au second tour, il y aura une recomposition forte à droite, et dans ces cas-là, c'est celui qui sera au second tour, ou pour l'instant Marine Le Pen ou Zemmour, qui sera le pivot de la reconstruction à droite. Et si c'est Jean-Luc Mélenchon, et c'est lui qui donnera le tempo de la reconstruction à gauche. Ouais. Mais dans tous les cas de figure, c'est très inquiétant pour Valérie Pécresse.
Oui, c'est assez étonnant. On a vu plusieurs images, on les a commentées antenne, où elle est face à un agriculteur qui lui parle et elle lui tourne le dos en plein milieu de la conversation. Cette vidéo un peu ridicule aussi, où elle dit Vladimir Poutine, il faut lui dire stop.
Moi, je ne comprends rien à cette campagne électorale, à la campagne de Valérie Pécresse. C'est une femme pour laquelle j'ai de l'estime, mais là, elle est en train complètement de se vautrer. Déjà, au niveau du fond, elle tient un discours qui ne lui correspond pas. On sent bien, en effet, qu'incarner cette droite radicale, ce n'est pas le logiciel idéologique de Valérie Pécresse. Donc forcément, ça se voit, ça sonne faux. En outre, elle n'a de cesse d'attaquer Éric Zemmour en disant, ou Marine Le Pen en disant que c'est l'extrême droite, c'est horrible, sauf qu'elle tient, grosso modo, le même discours. Elle emploie les mêmes expressions. Je pense à grand remplacement, je pense à français de papier. Enfin, il y a un problème, en effet, de logique dans sa campagne et sur la forme, mais tout est raté depuis le début. Je ne vais pas revenir sur ce meeting qui était aussi drôlatique que pathétique. Je ne vais pas revenir fameux conseil de défense où on se retrouve avec une photo de Samuel Paty derrière. Je n'ai pas compris ce que ça faisait là. C'est ce que vous disiez, Valérie, quand elle s'adresse à un agriculteur. Elle a déjà l'image d'une petite bourgeoise qui va à la campagne, et là il y a un agriculteur qui lui parle de ses problèmes et elle s'en fiche complètement. On ne comprend rien. Et ce qu'il y a de dramatique, c'est que même au sein de la campagne de Valérie Pécresse, personne n'y croit. Ouais. Moi, j'ai un proche qui m'a dit il y a deux jours, si on ne termine pas en dessous des 10%, ce sera déjà bien. Enfin, on en est là aujourd'hui. C'est une candidature qui est en train de prendre l'eau. Et je pense que Valérie Pécresse va se retrouver, en effet, au fin fond de la mer avec les poissons et les coquillages. Mais c'est affolant.
Dominique, vous qui avez du recul sur...
Non, je ne dis pas que j'ai du recul. J'entends ce que dit... Kevin Bossuet, avec mes mots, s'il ne l'avait pas dit, je l'aurais dit. Mais maintenant qu'il l'a dit, je ne veux pas en rajouter. Parce que je trouve quand même que... la messe est dite. Je vais dire ça comme ça. Alors, c'est pas la peine, de mon point de vue en tout cas, psychologiquement et politiquement, d'en rajouter. Ce qui se passe est poignant. Ce qui se passe est terrifiant quelque part. La politique, c'est cruel et tout. Mais enfin, elle avait une carte à jouer... Et il y avait une carte à jouer pour les LR. Bon, et ça risque d'être catastrophique à l'arrivée. Moi, je préfère garder les souvenirs. Pardon, je parle au passé, c'est encore plus terrifiant. Mais je préfère garder le souvenir de celle qui, brillamment, et c'était pas évident comme combat, a réussi à se faire élire présidente de la région Île-de-France, qui s'en débrouille fort bien de l'avis de tous les franciliens, de la majorité des franciliens, Et là, effectivement, je reprends juste une chose que disait Kevin Bossuet il y a quelques instants. Quand elle démarre, d'ailleurs avec à côté Éric Ciotti, qui annonce déjà qu'il va voter Zemmour, si c'est un match entre Macron et Zemmour, quelle imprudence de se lancer dans une réponse comme celle-là. Enfin bon, passons. Et quand elle démarre, en allant chercher Zemmour et Marine Le Pen sur leur terrain, au lieu de défendre le credo bien connu. Alors, il ne plaît pas à tout le monde, mais au moins, c'est un enracinement, et c'est son enracinement à elle. Le credo de la droite, ce qu'il est convenu d'appeler la droite républicaine. Il y avait quelque chose à faire et à dire. J'arrête, je ne vais pas réécrire l'histoire, mais ce qui se passe là, c'est assez poignant.
Ouais.
C'est pas très mérité, mais c'est poignant.
Ouais. C'est très compliqué parce que une campagne, ça se prépare très en amont et il faut avoir une ligne rouge et il faut avoir une stratégie. Et pour Valérie Pécresse, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, la route change de direction. Rappelez-vous, elle quitte les LR parce qu'elle ne supporte pas la ligne Wauquiez. Elle est obligée de revenir et finalement, assez habilement, elle remporte cette campagne. Sauf que Ciotti arrive premier.
Elle en est la première surprise.
Elle est obligée d'endosser la ligne Ciotti pour lancer une deuxième campagne. Et cette deuxième campagne à laquelle il a fallu s'adapter, eh bien, elle consistait à arriver à se qualifier au deuxième tour en battant Le Pen et Zemmour et se dire ensuite sur le régalien, parce que je suis la représentante du parti de droite de gouvernement, je peux battre Macron. Sauf que depuis, il s'est passé ce qu'on appelle en com une rupture narrative. La rupture narrative, c'est septembre 2001. Ouais. Deux avions dans les tours. Tout est balayé, vous ne pouvez plus rien dire, plus personne ne comprend ce qui se passe. Et cette guerre, en fait, c'est une rupture narrative. Donc aujourd'hui, quand elle envoie des messages, voilà mon conseil de défense, c'est parce qu'ils sont totalement paniqués, puisque la mécanique de rally around the flag, c'est-à-dire quand il y a une guerre, tout le monde se solidarise autour du chef, qui est en train de se passer pour Emmanuel Macron, eh bien tout le monde se dit autour, maintenant chez Pécresse, se dire qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Et là, c'est vrai que stratégiquement, eh bien, ils sont dans une ornière parce que même si elle arrivait à accéder au deuxième tour, ce serait très compliqué d'expliquer aux Français qu'il faut changer de leader, que la droite aurait une meilleure stratégie pour faire cesser la guerre. C'est très compliqué, ce qui explique les tâtonnements et sans doute des prises de position qui sont parfois difficiles à expliquer, mais qui ne sont juste que l'expression d'une équipe qui tend à faire quelque chose et à relancer la campagne de sa candidate.
C'est triste.
Est-ce qu'il faut une campagne ou pas ? Est-ce qu'il faut une campagne ? On a pratiquement plus de temps, mais
c'est plus possible,
est-ce que c'est indispensable qu'il y ait une campagne, qu'il y ait du débat ? Est-ce que ça sert à quelque chose ?
Moi, je pense que oui, parce que s'il n'y a pas de campagne électorale et qu'on ne parle pas des sujets qui intéressent les Français, le pouvoir d'achat, l'immigration, l'insécurité, les Français vont avoir l'impression qu'on leur a volé cette élection et l'élection sera considérée par une partie comme étant illégitime. Il faut qu'il y ait une vraie campagne, qu'il y ait des différences de point de vue, parce que sinon, c'est la démocratie dans son entièreté qui va perdre.
Il faudra au minimum que Emmanuel Macron, puisqu'il va finir dans les heures qui viennent, par se porter candidat, il faudrait que d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas, si ce n'est pas au travers d'un meeting à cause des circonstances de la guerre, par un texte articulé, nous dise ce qu'il entrevoit, ce qu'il propose. Ça plaira aux uns, ça ne plairait pas aux autres, mais il faut qu'il y ait du contenu.
Éric, campagne, pas campagne, ça sert à quelque chose ?
On peut regretter, mais il n'y aura pas de campagne. Il n'y aura pas de campagne avec la guerre en Ukraine. Moi, je fais le pari que le chef de l'État tient, par exemple, on verra une candidature au Conseil constitutionnel en disant qu'il est tellement occupé par le reste qu'il n'a pas le temps d'en discuter. Donc on ne parlera pas du bilan d'Emmanuel Macron, on ne parlera pas de son projet et tout sera étouffé par le contexte international pesant et alarmant qui est en place. Et ça, évidemment, on le regrette parce que est-ce que les Français n'auront pas l'intention qu'on leur a volé l'élection et qu'on leur a volé les débats autour du bilan et du projet des candidats? Ça, c'est un vrai sujet pour la suite du climat politique en France.
Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.